Je suis content d'être avec vous et j'espère que vous êtes content d'être avec moi pour un petit moment. J'espère que je vous aurai avec moi parce qu'il y a eu un changement d'heure, n'est-ce pas ? Vous le savez et puis ceux qui ne le savent pas, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore là, ils devraient arriver dans 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Donc ne soyez pas surpris si des gens viennent combler les rangs. 5-10 minutes, souhaitez-leur la bienvenue. Voilà, mais c'est vrai que ces changements d'heure, chaque année je me fais quand même avoir. Et puis, ça fait toujours mal, hein. Je ne sais pas pourquoi on persiste avec ces changements d'heure. Bon, un jour viendra où il n'y aura plus le temps chronos. Ce sera extraordinaire, hein. Il n'y aura plus que ce temps kairos, le temps de Dieu, l'éternité. Et on aura le temps d'être ensemble. Ah. Voilà. Aujourd'hui, il y a une broche, il y a un repas communautaire, donc on aura un peu de temps d'être ensemble. Et puis, ça permettra que ceux qui se sont déplacés avec une heure de retard, ils puissent... Rester un peu plus longtemps quand même. Alors ce matin, effectivement, je vais continuer cette série. Et puis bonne nouvelle, je ne suis pas bleu non plus. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, tout va bien. J'ai retrouvé mes couleurs. Donc c'est tip top. Et puis donc on va continuer cette série avec sur la foi. Avoir la foi, c'est croire. Je crois en Dieu, j'ai la foi. Et puis il y a une petite différence lorsqu'on dit avoir de la foi. Au travers de cette série, j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager, à ne pas chercher à avoir plus de foi quantitativement, mais à faire germer un petit grain de moutarde au travers de votre relation avec Dieu, votre connaissance de Dieu, votre confiance en Dieu. On avait vu donc que la foi qui plaît à Dieu, eh bien, oui, Jack, la foi qui plaît à Dieu, nous avons vu que c'est une foi qui est centrée sur qui est Dieu, sur sa nature et ses attributs. Puis la semaine dernière, pour vous qui n'étiez pas là, on a parlé d'une foi qui obtient. Et une foi qui obtient, elle était basée sur trois choses. Ce que Dieu dit, donc la parole que Dieu nous donne, la parole que Dieu nous dit. Une foi qui obtient, c'est une foi qui ne doute pas. Petit récapitulatif, donc je veux redire, préciser que quand je dis ne pas douter, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de douter. Ça ne veut pas dire que dans votre chemin de foi, vous n'allez jamais douter. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser le doute. Ah non, aïe aïe aïe, c'est péché de douter. Non, il y a des moments de doute dans une vie de foi. C'est certain. D'ailleurs, j'ai lu cette citation cette semaine. Le doute et la foi vont toujours de pair, car face à la certitude, qui a besoin de foi. Donc dans votre vie de foi, dans votre vie chrétienne, il y a des crises de foi. Il y a des moments où le doute est présent. Mais une foi qui obtient peut être très simple, comme quelque part Fred nous le rappelait ce matin. Une foi simple, une foi d'un enfant, elle a besoin d'avoir une totale confiance en Dieu et ses promesses. Hein, Jésus nous dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas. Voilà une foi qui obtient. Puis la troisième chose que nous avons vue la dernière fois, c'est la foi qui obtient, prend des risques. J'avais montré cette petite vidéo de ce pas de foi dans Indiana Jones, ce pas dans le vide où d'un coup, on ne sait pas où on va, on marche, puis là, tac, on est soutenu parce que Dieu est là. Donc il y a la foi qui obtient, elle prend des risques. Et j'ai aussi lu une petite histoire d'un dilemme cornalien cette semaine, c'est l'histoire d'un âne qui fait face à deux bottes de foin. Et puis, ces bottes de foin, elles sont exactement à la même distance de lui. Donc, évidemment, il est mal, le gars. Pauvre âne. Hein? Parce que, quelle botte choisir? Et en fait, réalisant qu'il ne pouvait pas faire un choix ou qu'il ne pouvait pas justifier sa démarche de manière logique pour aller vers l'une ou l'autre des bottes, malheureusement, cet âne se laissa mourir de faim. Voilà. Quel âne, hein ? Quel âne, ce cheval, non ? Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi ? C'est que la foi n'est pas rationnelle. La foi, elle demande de prendre un risque. Et puis, si on veut pouvoir toujours justifier logiquement notre démarche, on n'y arrive pas. À un moment donné, la foi nous pousse à prendre un risque, à faire un pas dans le vide. Et ce matin, nous parlons d'une foi qui persévère. Alors j'ai pris l'image de coureur, c'est tout ce que je ne fais pas. ça me parle beaucoup. Vous voyez la grimace du gars qui court sous la flotte. Hein, moi, je suis toujours impressionné quand je vois, des fois il fait moins 10, tu vas au boulot, tu es dans ta voiture, tu as fait ton petit... Non, on a bien dégivré notre pare-brise, bien entendu, on n'a pas juste fait un petit trou, hein, non. Vous ne faites pas ça. Et puis, ben, on grelotte un peu. Hein. Moi, quand je grelotte dans ma voiture, là, je m'accroche au volant, là, je suis un peu comme ça. Voilà. Et puis, je vois des gars qui courent. Je dis, mais attends, c'est 7h le matin, il fait moins 10 degrés, les gars, ils courent. Hein. Ou bien je vois Fred arriver en short à l'église, en vélo et tout. Hein, voilà, la foi qui persévère, ben, des fois c'est ça, puis ça a une petite grimace. Donc la foi qui persévère, c'est une foi qui tient ferme. C'est poursuivre la volonté de Dieu en toutes circonstances, c'est croire en sa parole et ses promesses, c'est croire qu'elles vont s'accomplir, puis c'est continuer malgré les oppositions, malgré la pluie, malgré le vent, c'est croire et faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont contraires. Et j'ai relevé principalement deux termes grecs dans le Nouveau Testament qui nous amènent cette idée de persévérance. Vous n'avez pas besoin de retenir les mots grecs. Mais le premier, emeno, dit rester, continuer, persévérer en toute chose. Puis il part un peu d'un état d'esprit, finalement, qui choisit de persévérer en toute chose. Et puis, makrotouméo, persévérer patiemment en supportant troubles et offenses. Ne pas perdre courage. Donc voilà les termes qui amènent cette persévérance. Vous voyez, persévérance dans le Nouveau Testament, c'est l'un de ces termes-là. Et si généralement on a besoin de persévérer, c'est parce qu'on n'est pas arrivé au résultat, vous êtes d'accord? Parce qu'on n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'on n'est pas au bout. Puis parfois on aurait envie d'arrêter. Mais la persévérance, c'est aller jusqu'au bout, c'est aller plus loin. Donc en fait, dans la notion de persévérance en elle-même, eh ben, il y a un effort. S'il n'y a pas besoin d'effort, il n'y a pas de persévérance. Alors rappelez-vous de ça, je pense que ça va être très simple à vous rappeler. La persévérance sent toujours la transpiration. D'accord? Hein? Gardez ça ce matin, ça sent toujours un peu mauvais, ça sent la transpi, parce que si on n'a pas besoin de persévérer, c'est que les choses sont faciles. C'est qu'il n'y a pas besoin d'effort. Donc moi, j'aime assez ce qui est facile, et puis c'est un peu mon défi. J'en parlais justement à Sam vendredi soir, notre guitariste. Plus jeune, je me contentais rapidement. Et puis j'avais remarqué qu'avec peu d'investissement, en fait, ben, je ne m'en sortais pas trop mal. Donc finalement, pourquoi transpirer, hein? Si en faisant peu, c'est facile et puis que le résultat est correct, bon, pas trop se péter les bretelles. On va pas trop se compliquer la vie, n'est-ce pas? Mais en fait... Même si le résultat visible de notre persévérance dans la vie de tous les jours peut sembler futile, parce que moi c'est un peu ça, je dis à quoi bon persévérer, à quoi bon aller plus loin, à quoi bon faire plus, si, de toute façon c'est pourquoi, pour avoir plus d'honneur, pour avoir une meilleure note, hein. Voilà, au gymnase, moi le 4 m'allait super bien, pourquoi faire 6? Le 4 c'est la moyenne, ça suffit, on passe l'année. Donc j'allais pas chercher un 6, ça servait à rien. Donc je calculais mes notes, hein, puis je faisais mes moyennes, tac, pour avoir 4. Puis mes parents, ils en avaient un peu marre, mais ils rigolaient aussi. Ils disaient, oui, quand même, il est pas mal parce qu'il sait exactement quelle note il doit faire et puis il travaille un peu en fonction. Bon, ça ne marchait pas toujours. Hein. J'ai quand même fini par refaire ma dernière année. Je vous confesse. Mais voilà, pour dire, j'avais pas trop envie parce que déjà, je ne comprenais pas trop l'idée. Je me dis, mais pourquoi plus? Mais là, en fait, la persévérance a un but en soi dans la vie de tous les jours, même si le but est peut-être futile, il y a un apprentissage qui est invisible. En fait, il y a un renforcement intérieur. On va au bout malgré les obstacles, on ne se laisse pas vaincre par le découragement, comme nous dit cette définition. Et puis, en fait, on décidera même si l'effort en vaut la peine une fois arrivé et pas avant. La persévérance, c'est ça. Il faut aller au bout, puis après, on peut dire ben, peut-être que c'était un effort qui en valait la peine, ou peut-être pas. Mais si on ne persévère pas, on ne peut pas savoir. Hein, donc moi, je vous parle de quelque chose que, ben voilà, je ne sais pas si j'avais été au bout, si j'avais fait mieux, quel aurait été le résultat. En fait, je ne le sais pas parce que je n'ai pas persévéré. Donc en fait, il faut aller au bout, il faut persévérer jusqu'au bout. Puis après, on peut peut-être juger des choses. Je vous avais parlé en 2021, ça fait bien longtemps, en été 2021, de mon abri à vélo, qui avait été renversé par le vent à deux reprises. Peut-être certains étaient déjà là, vous vous souvenez de cette histoire extraordinaire de mon abri à vélo. Et puis, on l'avait solidifié entre la première et la deuxième fois, évidemment. Donc, le même abri où on avait consolidé, on avait mis du bois, etc., etc., avec l'aide d'un cher ami de l'escale. Et puis, franchement, après deux fois, moi, j'avais envie de laisser tomber. Donc, la deuxième fois, quand il s'est de nouveau envolé, ben, j'en avais vraiment marre. Et puis, je me dis, bon, on fera sans cet abri. Et puis, cet ami m'a dit, mais on va construire, Luc. On va construire plus solide. Fais-moi confiance. Je vais prendre les choses en main. Et puis, c'était vrai. Il m'a fait un cabanon hyper solide. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi il y a un mois quand il y a eu la tempête. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Alors, si vous voulez faire une métaphore avec le vent de l'esprit, la puissance de l'esprit, c'est bon. Hein, parce que ce cabanon, il fallait, je pense, être au moins 10 pour le porter. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas ancré, mais il y avait des dalles de 50-50 dans les bords. Il était en bois. Vraiment, il était costaud, le machin. Et d'ailleurs, une fois qu'il était renversé, impossible de le redresser, tellement il était lourd. Donc j'ai pu démonter les parois en pleurant. voilà. Mais c'était vraiment, vraiment incroyable, la puissance du vent. Puis voilà que cette fois, j'ai des gens tellement solidaires, merci les amis, cette fois, notre propriétaire et un ami de l'escale supplémentaire, ils sont ajoutés à l'équipe et puis ils veulent reconstruire encore plus solide. C'est extraordinaire. Heureusement qu'ils sont là, parce que moi, je vous assure que j'aurais abandonné depuis longtemps. Mais pourquoi je vous dis ça? Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, cet abri, du coup, il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus lourd, il devient de plus en plus résistant. Puis ça, c'est l'œuvre de la persévérance. Si moi, j'avais arrêté, on aurait gardé le petit machin en métal léger, puis on aurait balancé ça à la poubelle, puis fini. En fait, en persévérant, la construction elle devient plus solide. Et c'est exactement ce qui se passe intérieurement lorsqu'on persévère, que ce soit dans les tâches du quotidien, peut-être il y a des choses où vous avez envie d'arrêter, mais je vous encourage à persévérer parce qu'il y a un fruit intérieur. Et puis, c'est aussi, bien sûr, directement ce qui se passe en lien à notre foi. Vous aurez une image de mon cabanon renversé. Une foi qui persévère deviendra plus forte, plus résistante, plus sûre et plus ancré. Donc il y a un gain, parce que notre foi, elle doit tenir jusqu'au bout. Celui qui remporte le prix, c'est celui qui franchit la ligne d'arrivée. Hier, on avait un petit tournoi de hockey de mon fils, la première fois qu'il faisait un tournoi de hockey, Mathias, il a 7 ans, et puis il a tout gagné, il était hyper content, lui, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas vu le puck passer, mais il ne faut pas lui dire, non, de temps en temps, il a touché le puck quand même, mais quelle joie, mais tous les enfants du tournoi, tous les enfants ont reçu une médaille. Voyez, on remporte le prix quand on franchit la ligne d'arrivée. Ce n'est pas seulement le premier. Chacun de nous, avec notre foi qui tient jusqu'au bout, il y a un prix. Il y a la médaille. Donc ça, c'est important. Et peut-être, je ne voulais pas encore vous mettre un film aujourd'hui, mais peut-être vous avez vu, vous vous souvenez de ce fameux film Rasta Rocket. Ça vous dit quelque chose, Rasta Rocket? Les Jamaïcains qui font du bobsleigh, JO 1988 au Canada, incroyable. Ils n'ont jamais vu le froid, ils se sont congelés, les gars. Et puis, à la fin, donc, ils arrivent à faire des prouesses, mais c'est une histoire vraie, etc. Et puis, dernière course, le moment fatidique et tout, et bien là, le problème technique, le patin du bobsleigh se dessert, hop, le bob se retourne, c'est la catastrophe, nous on regarde le film, là, non, on voulait tellement que ce soit la happy end qui gagne et tout, mais non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gars, ils se relèvent, ils prennent leur bob et puis ils franchissent la ligne d'arrivée en portant leur bob. Voilà. Alors bien sûr, il y a peut-être l'honneur, il y a l'honneur de la nation, quelque chose. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement une belle image de persévérance. Peu importe la manière, ils sont allés jusqu'au bout. Pour eux, il fallait franchir cette ligne d'arrivée. Et pour nous, c'est la même chose. Notre foi est appelée à franchir cette ligne d'arrivée et on doit persévérer pour cela. Alors, réponse à une question aujourd'hui. Comment persévérer dans la foi malgré les épreuves? Parce qu'on comprend qu'il y a des épreuves, autrement il n'y a pas de persévérance. Ah oui, c'était l'image des bobsleighers, là. Voilà, ça vous dit quelque chose, hein. ils sont beaux. Comment persévérer dans l'épreuve? Premièrement, en se rappelant de l'espérance attachée à notre foi. Donc c'est quoi le but? Deuxièmement, en continuant à creuser malgré tout et puis en étant déterminé. Alors prenons ce premier point, pas plein, se rappeler de l'espérance attachée à notre foi. Donc il est important et tellement logique de savoir pourquoi on fait les choses. Si on ne sait pas pourquoi on persévère, ben on risque fort d'abandonner, pas aller jusqu'au bout. Et les quatre derniers versets du chapitre 11 des Hébreux sont particuliers parce qu'ils nous parlent des héros de la foi qui ont souffert sans obtenir ce qu'ils espéraient ici-bas. Et puis, je continue le texte que j'avais commencé la dernière fois. Donc, c'est les derniers versets. Il est dit ceci. « D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes à la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. » Amen. C'est surprenant ce texte, hein? Alors la dernière fois, j'ai parlé d'une foi qui obtient. On pourrait penser là qu'il y a une foi qui n'obtient pas. Ils ont persévéré, en fait, pour obtenir plus tard. Et puis, il est question d'un gain encore meilleur. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce gain encore meilleur? Et l'auteur ici inclut tous les chrétiens. Vous voyez, la fin, il y a le « nous », car il avait quelque chose de meilleur pour nous, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc c'est vraiment tous les chrétiens qui sont inclus ici. Et la perspective, bien sûr, c'est le retour du Christ dans la gloire. Durant tous les siècles, il y a des chrétiens qui auront œuvré avec foi, avec persévérance, jusqu'à ce jour extraordinaire qui sera l'inauguration, finalement, d'une ère nouvelle. Ce sera le moment des récompenses, le retour du Seigneur. Quelle perspective! Mais Jésus a lui-même dit, alors qu'il parlait des difficultés qui surviendraient, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et puis Paul aussi, dans 2 Timothée, dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Donc le retour de Christ, le salut, règne avec lui, c'est ça qui fait notre espérance. Donc notre espérance, ce n'est pas forcément une récompense ici-bas. Notre persévérance, ce n'est pas toujours pour une récompense là, maintenant, tout de suite. Notre regard, il doit aller plus loin encore. Il doit vraiment voir au-delà. Jésus revient, il règnera. Notre persévérance trouvera à ce moment-là son parfait accomplissement. Puis c'est difficile pour nous, hein, de voir plus loin, de se dire « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais oui, c'est vraiment extraordinaire. Je cite encore Philippe Yancey, là, que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Une foi dans le futur me permet de croire que Dieu n'est pas non plus satisfait de l'état du monde » et conçoit de le restaurer selon son plan original. Je peux croire dans un futur où il régnera avec justice absolue, avec une justice absolue. Pardon. Donc une foi qui persévère, eh ben elle sait qu'il y a mieux après. Nous pouvons être déconcertés parfois par ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le temps présent, mais notre foi persévère parce qu'elle garde la solide espérance qui est en Christ ressuscité. Il revient avec puissance. Amen. Quelqu'un peut dire « Amen ». Vous y croyez qu'il revient avec puissance? Vous réjouissez? Voilà, ça c'est le but de notre foi qui persévère. Alors bien sûr, ça peut nous sembler un peu lointain, théorique. Est-ce que vous pensez au retour du Maître lorsque vous galérez, lorsque vous transpirez pour votre foi dans la vie quotidienne? Est-ce que vous êtes là, vous dites « Ah, c'est pas grave, je continue, de toute façon, un jour, il va revenir hein ». Je pense que quand vous galérez, quand vous vous êtes pris avec vos difficultés, c'est difficile hein, de penser à une espérance extraordinaire et lointaine comme ça. On a de la peine à le toucher. Mais j'aimerais quand même vous inviter à le faire ce matin. Travaillons pour une couronne incorruptible. Désirons entendre « bon et fidèle serviteur ». Entre dans le repos de ton maître. Si on perd cela de vue, moi j'ai un peu peur qu'on ne vive plus que pour nous-mêmes finalement. Pour des résultats immédiats qui vont peut-être apporter de la joie, mais de courte durée. Pour des trésors périssables. Donc nous, en tant que chrétiens, notre perspective, elle doit aller au-delà. Et si ce que je fais ce matin, si je le fais aujourd'hui, c'est juste pour que vous soyez contents, puis je dis, ah, c'est super, ils ont une bonne prédication, puis ils repartent contents, ça n'a pas vraiment de valeur. Si c'est pour que vous me disiez, ah, c'est bien Luc, t'es un bon prédicateur, aucune valeur. Ben, c'est vrai, j'ai comme une récompense immédiate, ça ne sert à rien. Et ma perspective, c'est le royaume de Dieu. Ma perspective, c'est que vous toutes et tous qui êtes là, soyez forts dans votre foi, que votre foi, elle aille jusqu'au bout, que ceux qui n'ont pas encore entendu et pas reçu Jésus puissent le recevoir, puissent parvenir à la repentance, puissent goûter à cette gloire de Dieu, à l'amour de Dieu. Ça, c'est la perspective. Mais parfois, on travaille pour le court terme. Et puis là, on perd même le but. Paul, ça va, vous êtes encore là ? Bon, ça va. Paul encore encourageait ses collaborateurs à persévérer pour un but. Et on lit encore quelques versets. Je commenterai rapidement dans Actes 14, au verset 19, où il est dit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. » Donc il a reçu ses coups de bâton, il a eu des jets de pierre. Et puis là, il est presque mort. Et les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Puis quand ils eurent évangélisé, donc il continue, il persévère, hein, cette ville, et fait un certain nombre de disciples, il retourne à Lystre et à Icône et à Antioche. Donc il revient sur ses pas, il revient là où il avait été lapidé. Et au verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc il y a une persévérance dans la foi, car l'enjeu ici, c'est le royaume de Dieu. L'enjeu du salut est énorme. Et pour que des hommes et des femmes entrent dans ce royaume, eh bien, il y a une bataille qui demande notre persévérance. Ta persévérance encore ce matin. Ce n'est pas juste Paul en l'an 50, c'est nous aujourd'hui. Il y a une bataille. Il y a des tribulations, il y a des difficultés, il faut une foi persévérante pour que beaucoup puissent entrer dans ce royaume de Dieu. Donc le salut, pensez à ça, le salut, la guérison, les chaînes qui sont brisées, les cœurs restaurés, voilà ce qui devrait être le but de notre persévérance. On connaît assez bien l'histoire de ces quatre hommes qui vont amener ce paralytique-là, paralytique par le toit d'une maison. Vous vous souvenez de cette histoire, hein ? Je n'ai pas besoin de trop en parler, probablement vous connaissez tous cette histoire. Mais j'aime beaucoup cette histoire, elle est vraiment forte. Mais pensez à tous les obstacles qu'ils ont dû franchir pour amener cet homme à Jésus. Vraiment, il fallait de la persévérance. Mais ils ont osé, puis ils ne sont pas laissés bloquer. Il y avait la foule, il y avait du monde, tout le monde était là pour être guéri. Puis eux, ils arrivent avec leur brancard, et puis il n'y a pas de place. Ils ont persévéré. Ils ont même fait preuve d'ingéniosité, de créativité. Mais il fallait une sérieuse espérance. Il fallait une dose de foi. Il fallait se dire, mais waouh, cet homme va guérir, c'est sûr. Il fallait vraiment avoir cette pensée-là. Ils désiraient leur but, c'était de voir cet homme guéri. Ils avaient cette foi qui persévère, ils avaient le miracle en perspective. Si tu doutes, si tu te dis, de toute façon, à quoi bon, tu ne vas pas commencer à passer par-dessus tout le monde, monter sur un toit, ouvrir un toit pour descendre quelqu'un. Mais ils avaient l'image, ils voyaient cet homme guéri. Ils avaient cet amour et cette compassion, et ils se réjouissaient de ça. Ils avaient cela en perspective. Une fois qu'ils persévèrent à travers les épreuves, donc, gardent le but en perspective. Et puis, elle continue à creuser malgré tout. C'est le deuxième point. Et en parlant de creuser, je pensais au puits. Ce qui peut arriver, vous n'allez certainement pas me contredire, que nous soyons un peu secs. Il peut arriver qu'il n'y ait plus d'eau dans le puits. Plus d'eau pour faire tourner la roue, si vous pensez au moulin à roue. Plus d'eau pour avancer. Et puis on passe tous par ces moments de sécheresse intérieure, de désert. Mais que faire dans ces moments-là ? Que faire dans ces moments-là ? Souvent, moi, j'ai attendu la pluie. J'ai attendu d'être rempli à nouveau. Seigneur, remplis ! Seigneur, j'appelle ta pluie qui vienne mouiller ma terre. Tout ça, c'est bien, c'est juste. Mais il y a peut-être une idée un peu différente, c'est choisir de continuer à creuser. Choisir d'aller en profondeur, d'aller plus loin. Souvent, lorsqu'on est sec, on se culpabilise, n'est-ce pas ? Ça vous arrive de vous culpabiliser d'être sec ? Bien, ça vous arrive, c'est bien, il y a des gens vrais, honnêtes parmi nous. Oui, on se culpabilise. Ah, mais non. Mais en fait, l'idée de creuser plus profond signifie approfondir ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu, aller plus loin que là où je suis allé. Donc c'est génial, en fait, mon puits, il est là, mon puits, il existe. Ça veut dire que j'ai déjà été à la source, j'ai déjà creusé, j'avance. Mais en fait, des fois, quand on est sec, ben, l'idée, c'est d'aller encore plus loin avec Dieu, pour retrouver cette eau. Donc si l'épreuve nous a asséché ton puits intérieur, ben, ne t'inquiète pas, parce que la source, elle, n'est pas tarie. Creuse encore ce matin. Persévère. Et je ne me lasse pas de cette parole donnée par le prophète Jérémie, où il est dit, Jérémie 17, 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Donc il le fait confiance, donc il y a cette foi qui est là. « Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Parce qu'on étend nos racines, on va à la source. Alors, je n'ai pas de pelle à distribuer ce matin pour creuser encore, mais ce passage parle de confiance et d'espérance. Donc, j'aimerais vous encourager à renouveler ce matin votre confiance en l'Éternel en lui parlant. Au milieu de vos épreuves, là où vous êtes aujourd'hui, dans vos épreuves, dans ce qui défie votre foi. On peut juste prendre quelques instants chez vous, vous pouvez le faire aussi si vous êtes là, chez vous. Juste lui dire, en fait, Seigneur, je veux te dire que je te fais confiance. Je te fais confiance dans mon épreuve. Je te fais confiance. Je choisis peut-être de te faire à nouveau confiance. Tu es mon espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon refuge. Tu es mon abri. Tu es mon réconfort, mon salut, ma délivrance. Tu es ma joie. Je veux te faire confiance. Alors, on peut juste prendre quelques instants, puis je vous invite à le dire sincèrement, si c'est votre cœur ce matin. Pensez à ce que vous vivez dans votre foi, peut-être là où il y a des difficultés. Seigneur, et quelque part c'est j'accepte, il y a un lâcher, j'accepte de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. C'est ainsi qu'on peut à nouveau creuser, c'est ainsi qu'on trouve l'eau au fond de ce puits. Troisièmement, être déterminé. J'aime beaucoup la mimique de cet homme. On voit sa détermination, non ? C'est extraordinaire. Déterminé, bien sûr, à aller jusqu'au bout. Un pasteur du nom de George Everett a dit ceci, « Il y a deux types de foi. L'une dit « si » et l'autre dit « bien que ». Que veut-il dire par là ? Certains vont avoir une foi, on pourrait dire, conditionnelle. Si ma vie est cool, je persévérerai jusqu'au bout. C'est un peu ce que je disais en introduction. Il n'y a pas de persévérance sans avoir de difficultés. Puis l'autre type de foi, bah, elle dit, bien qu'il y ait des épreuves et des difficultés, des souffrances autour de moi, des choses que je ne comprends pas, je ne vacillerai pas dans ma foi. Je persévérerai jusqu'au bout. J'atteindrai le but. Je remporterai le prix. Il y a les si ou les bien que. On va lire encore un texte en 2 Corinthiens, chapitre 4, où Paul dit « Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ce texte extraordinaire. On retrouve ici une foi basée sur la parole, une foi centrée sur Christ et son œuvre. Donc, il croit, c'est pourquoi il parle. C'est la parole qui est donnée là, c'est une citation de l'Écriture. Et puis il y a cette foi sur l'œuvre de Jésus, ce Jésus qui est ressuscité, qui va continuer à le faire. Et puis il y a cette détermination à atteindre le but, l'espérance. Il y a un poids éternel de gloire. On ne regarde pas au visible, mais au présent, mais à ce qui est invisible, ce qui est éternel. Il n'y a rien qui peut faire renoncer l'apôtre Paul, puis on le voit bien dans ses écrits. Il revient même là où il a été lapidé. Même si son corps extérieur souffre, même si son corps extérieur est malmené, son être intérieur, il se renouvelle à cause de ce qui vient, à cause de cette espérance vivante, à cause de ce poids éternel de gloire. Il sait que sa mission, que ce qu'il fait, que sa foi qui persévère, elle va porter un fruit durable. Donc il est déterminé, rien ne va l'arrêter. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Quelque part, Paul est déterminé à aller chercher cette centième brebis, la brebis perdue. Puis lui, coûte que coûte, il va y aller. Puis il en a trouvé des brebis perdues. Hein? Mais il y a un choix à faire. Nous, des fois, on aime bien prendre soin des 99 brebis, puis aller chercher celle qui est perdue, c'est difficile. Mais lui, non. Il se bat et il persévère pour aller chercher cette brebis perdue. Je ne sais pas comment vous cherchez vos clés, ou vos lunettes, ou le beurre dans le frigo, ou votre porte-monnaie au fond de votre sac, mesdames. Non. Je ne sais pas comment vous faites, mais chez moi, il y a souvent, quand mes enfants cherchent quelque chose, « Il n'y a rien, papa. C'est pas où tu m'as dit. » Je dis « Mais oui, cherche. Mais j'ai cherché. » Vous connaissez ce refrain ?« J'ai fait que ça, j'ai cherché. » Mais je t'assure que c'est là-bas. Non, il n'y a rien, je te dis qu'il n'y a rien. Mais crois-moi, il n'y a rien. Hein, puis là, on se lève, un peu, on y va, puis on trouve. Ça vous arrive, ça? Mais oui, évidemment. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont la flemme de chercher. Ils n'ont pas envie de chercher. Ils seraient même prêts à laisser tomber. Finalement, ce n'est pas si important. J'avais envie de ça ou j'avais besoin de ça, mais je vais trouver une autre solution parce qu'ils n'ont pas envie de chercher. Tant pis. Hein, ou bien ils vont dire, ah ben c'est perdu. Hein, oui, je ne trouve plus mon maillot de bain pour aller à la piscine, à l'école. Hein, mais tu as cherché. Oui, j'ai cherché. Mais non, ils n'ont pas cherché. Hein, mais c'est plus simple qu'on leur donne un autre costume de bain. Ça, c'est mieux. La détermination, elle dit quoi? La détermination dit, lorsqu'on cherche, on trouve. Lorsqu'on cherche, on trouve. C'est ça être déterminé, c'est aller jusqu'au bout. Vous aimez ce mouton, hein? Il est beau. Aller chercher la brebis perdue. Donc il y a des épreuves, mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout, à accomplir ma mission afin que beaucoup trouvent ou retrouvent le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on cherche, on trouve. Donc il y a une détermination, il faut y aller et on y va jusqu'à trouver la brebis. On laisse pas tomber. On persévère jusqu'au bout. Un verset qui m'a parlé cette semaine encore, il m'a beaucoup parlé cette semaine, je suis désolé, hein. Ça va? Vous êtes là? Jean 6, 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus avait donné des discours assez forts, intenses, toujours plus profonds. Puis là, beaucoup de gens qui marchaient avec lui arrêtent, se retirent, arrêtent de marcher avec lui. Puis Jésus va dire aux 12, « Et vous ? C'est comme s'il nous dit à nous, et vous, est-ce que vous allez aussi vous retirer? Est-ce que vous allez aussi partir? C'est une bonne question. Hein, c'est décourageant quand on voit les autres qui partent en plus. Et vous? Et puis il y a Pierre qui va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc on a besoin de cette détermination pour suivre Jésus jusqu'au bout. Il a les paroles de la vie éternelle, on le sait. Il y a des moments où parfois, on voit peut-être des gens qui se détournent, on voit peut-être des gens découragés, qui quittent, qui s'en vont, qui arrêtent de marcher avec Jésus. Puis ça nous pose des questions. On peut avoir ces moments de doute, effectivement, dans notre vie de foi. Est-ce que je continue à aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais persévérer? Est-ce que ma foi sera persévérante jusqu'au bout? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais terminer ce matin avec un témoignage court. C'est le témoignage de Josie Chacko, fondateur d'Empart. Vous avez peut-être lu ce bouquin Inouï. J'avais pris un exemplaire, je l'ai oublié dans mon bureau. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le donner avec beaucoup de joie. On soutient en tant qu'église ce ministère d'Empart. Josie avait reçu la vision d'implanter 100 000 églises en Inde. Donc c'est tout un ministère qui se développe en Inde. Puis pour réaliser ça, ben, il y a des centres de formation qui forment des pasteurs, des ministères, des pasteurs implanteurs d'églises. Mais vous savez que l'Inde, et c'est toujours plus vrai, il y a vraiment de la persécution. L'indice de persécution, il augmente chaque année. Et puis ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour implanter des églises, qui se lèvent pour servir Dieu, eh ben, ils le font au péril de leur vie. Il y a eu des personnes qui sont vraiment mortes. Donc ce n'est pas juste comme ça, c'est une réalité. Mais si ce n'est pas leur vie, c'est en tout cas un isolement total. Il y a des églises qui sont brûlées, où ils perdent leur maison, ils sont battus souvent, ils sont frappés, etc. Donc ça, c'est la réalité qui est là aujourd'hui. Et puis, Josie, il va dire ceci. La capacité de leadership d'une personne est déterminée par sa capacité à supporter la douleur. Puis il poursuit en disant, soyons déterminés à atteindre notre vision, conscients des persécutions et difficultés qui surviendront. La capacité de leadership d'une personne est déterminée par sa capacité à supporter la douleur. Moi, je n'ai jamais lu ça dans les ouvrages de leadership de Maxwell, pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas du leadership américain, ça. Franchement, vous voyez cette foi qui persévère dans l'épreuve, finalement. Cette capacité qu'on a à supporter l'épreuve, elle fait de nous des leaders, des hommes et des femmes qui sont debout et capables de grandes choses. Mais il y a besoin de cette détermination aussi. Les musiciens pouvaient revenir sur scène. Et puis, il va terminer avec cette vision de l'Apocalypse 7, où il est dit « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles, de palmier à la main, et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône de l'agneau. » Alors peut-être vous êtes un peu fatigué ce matin, mais regardez ici. Ok, on va vivre encore quelque chose ensemble. Pensez à ça. Imaginez cette scène. Imaginez ces des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu rassemblés devant l'agneau, louant Dieu, habillés de robes blanches, qui crie « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Notre mission, les amis, notre but, il est là. Dieu aimerait ou Dieu aurait pu faire sans nous, mais il désire réaliser ce rêve avec toi, avec moi. On a besoin d'une foi qui persévère pour voir cela. Une foi qui persévère dans l'épreuve. Mais lorsqu'on sera tous ensemble dans le ciel avec les héros de Hébreux 11, tous ensemble, nous, on pourra se réjouir parfaitement de ce que nous avons accompli ensemble avec la puissance de Dieu, évidemment, mais avec notre transpiration, avec nos efforts, avec notre foi persévérante. Vous imaginez la joie quand vous serez là, les amis. Waouh ! J'ai tenu, j'ai été au bout, c'est extraordinaire. Ça va être... Il n'y a rien qui peut décrire ce moment. Ça va être énorme. Mais c'est tous ensemble. Persévérer dans la foi, persévérer dans l'épreuve, n'a pas de sens si l'objectif ne nous dépasse pas. Si la cause n'en vaut pas la peine. Pourquoi persévérer dans l'épreuve pour un petit truc ici-bas ? C'est ça l'objectif, les amis. Une foi qui persévère pour arriver à Apocalypse 7, verset 9. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre ce rêve de Dieu avec vous. Et puis, je vais oser nous poser une question, je m'inclus complètement. Vous imaginez donc cette foule réunie, des hommes de toute tribu, de toute nation. Imaginez ça quelques instants, fermez peut-être les yeux là où vous êtes, pensez à ça. Imaginez, c'est différent, c'est joyeux. Tout le monde éclate de joie, crie au Seigneur. Il y a du monde partout, mais vous n'êtes pas serré, vous n'êtes pas dérangé par l'odeur, vous n'êtes pas dérangé par le fait d'être oppressé, mais vous êtes juste submergé par l'amour de Dieu, submergé par cette joie d'être là. Puis ce matin, on peut se poser cette question. Dans cette foule qui est là, qui est immense, est-ce que aurais-je eu le privilège d'y conduire quelqu'un ? Aurais-je eu le privilège d'y amener quelqu'un ? Et je crois que notre foi, elle prend son sens là. N'est-ce pas pour ça qu'on devrait se battre ? N'est-ce pas pour ce but que je devrais continuer à creuser mon puits ? Alors ce matin, j'aimerais juste prendre le temps encore de faire un appel tout simple. Deux appels. Le premier, c'est pour celui qui est ou celle qui est éprouvée dans sa foi. Tu es éprouvé dans ta foi. Mais ce matin, il y a un appel à choisir de persévérer encore, de te battre avec détermination, d'aller au bout. Et si ce matin, tu as besoin de force renouvelée. Si ce matin tu veux dire oui, je veux persévérer, oui, je veux aller jusqu'au bout. Je veux juste t'inviter à te lever là où tu es. Personne ne regarde, on est tous dans l'adoration, on ferme les yeux maintenant. Mais juste comme pas décisif, tu as besoin de persévérer. Tu dis oui ce matin, je veux persévérer, je veux aller jusqu'au bout. Oui, je veux creuser encore ce puits. Oui, je veux être déterminé. Je ne veux pas me laisser être vacillant, je ne veux pas être pas sûr. Mais oui, je veux choisir la vie, je veux choisir de me battre, je veux choisir cette foi qui persévère. Alléluia. Je priais déjà pour vous ce matin. Merci Père pour ces personnes qui choisissent de se lever ce matin. Seigneur, ils ont choisi de dire qu'ils te font confiance. Seigneur, tu vois leur cœur et tu connais leurs circonstances exactes. Seigneur, tu vois, tu sais ce qu'ils sont en train de traverser. Peut-être même ils se sentent incompris. Personne autour d'eux les comprend vraiment. Ils se sentent même seuls dans leurs circonstances. Et ce matin, Seigneur, ils ont choisi de se lever pour dire qu'ils veulent persévérer, qu'ils veulent continuer, qu'ils ne veulent pas abandonner, ils veulent aller jusqu'au bout. Alors Saint-Esprit, viens maintenant, souffle sur eux. Seigneur, tu ne vas pas changer leurs circonstances, mais Seigneur, tu as promis d'être avec eux. Seigneur, tu leur donnes cette force dont ils ont besoin pour passer la tempête, pour aller au-delà de la tempête. Seigneur, tu leur donnes ce regard qui voit plus loin. Seigneur, tu leur donnes ce but qui s'accroche à ta vision et pas juste à une vision amoindrie, une vision humaine. À cette vision qui dépasse ce que nous on peut comprendre. Seigneur, tu les renouvelles dans leur marche, tu renouvelles leur être intérieur, comme Paul alors que leur être physique, leur corps physique peut être aussi touché. Seigneur, tu renouvelles leur être intérieur ce matin. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais faire un autre appel pour les personnes qui, peut-être comme moi, vous avez pas vraiment besoin de persévérer dans votre foi aujourd'hui. En fait, votre vie de foi, elle est tranquille. Votre chemin de foi, il est facile. Mais il y a cette question pour vous ce matin. Cette question pour moi aussi. Aurais-je eu le privilège d'amener quelqu'un dans cette foule? Et cette question, elle résonne dans ton cœur ce matin. Est-ce que c'est normal que je n'ai pas besoin de persévérer dans ma foi? Est-ce que c'est normal que ce soit facile? C'est peut-être parce que moi, ma vision, parce que mon but, il n'est pas aligné sur ton but à toi, Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit veut réaligner vos objectifs, pour réaligner vos buts. Parce que oui, la foi, elle a un coût. La foi, elle demande persévérance. Alors j'aimerais oser ce matin, si tu es prêt à aller chercher cette brebis perdue, si tu en as envie, si tu as ce cœur qui dit « Oui, ce matin, je veux répondre à l'appel. Oui, ce matin, je veux entrer dans une vie de disciple qui va me demander une foi persévérante. Je ne veux plus rester assis sur ma chaise, confortable dans ma foi. Peut-être même fier d'avoir une foi qui n'est pas compliquée. On veut balayer tout ça ce matin. Si ce matin, tu désires entrer dans cet appel, entrer dans cette vie de disciple, entrer dans une foi persévérante pour aller chercher cette brebis perdue. Mais j'aimerais aussi t'inviter à te lever là où tu es. Et puis si tu as le courage, parce que je crois que ça demande du courage, une foi persévérante demande du courage. Mais j'aimerais même t'inviter à t'avancer. Et puis avec les équipes de prière, on va juste prendre le temps de prier pour toi, qui t'avance maintenant, qui dit maintenant je veux entrer dans cette foi persévérante, je veux aller chercher, je veux amener des personnes dans cette foule d'Apocalypse 7. Je veux pas que ma foi elle soit stérile, je veux pas me battre pour rien, je veux pas me battre pour quelque chose de périssable, mais je veux me battre pour ce qui est impérissable, je veux me battre pour ce poids éternel de gloire. Alléluia.
Dieu. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et nous verrons, oh Dieu, combien tu es grand,
le roi dans sa splendeur.
Chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms.
en âge.
Qu'un âge en âge il est, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et nous verrons, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand. Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verrons, oh Dieu, combien
tu es grand.
Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu.
chantons, Dieu
merveilleux,
tu es grand.
Ma nouvelle,
tous verrons, Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms. Le plus grand des noms.
Déclare ensemble qui est le plus grand des noms.
Digne de
merci pour ton œuvre, Saint-Esprit, merci parce que tu souffles. Merci parce que au-delà des paroles, mes paroles ce matin, tu œuvres parfaitement dans les cœurs. Merci Seigneur pour ton regard sur chacun ce matin. Merci pour ton amour pour chacun. Seigneur, merci. Seigneur, je sens, Seigneur, je vois ce regard d'amour sur chacun ici présent. Merci d'encourager la foi des uns et des autres pour ta gloire, en vue de cette espérance que nous avons en toi. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, on peut applaudir notre Seigneur encore.
Luc. Ah, on s'y est allumé. Donc, on attend que ça... Voilà. Merci, la technique. Merci, Luc, pour ce moment. Merci aussi à Dieu, bien sûr, pour ce moment qu'on a pu vivre. Pendant que je priais pour quelqu'un, j'avais reçu un peu cette image de peut-être qu'en fait, creuser à la pelle, ça ne suffit pas. Il faut peut-être y aller au marteau-piqueur. Donc, allons-y, creusons quand même encore. Et pendant que Luc parlait aussi, j'avais plusieurs images qui me sont venues. Je vous en donne deux. La première, c'est le classique, un peu le tunnel. On entend souvent parler qu'on rentre dans un tunnel et puis on ne voit pas toujours la sortie parce que parfois c'est un contour, donc on ne voit pas la sortie. Mais il y en a une. Et aussi ce psaume qui parle de « Je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Des fois, ça paraît un peu sombre tout ça, mais il y a deux